Brothers and sisters, on the
Frères et sœurs, profitons de cet hymne pour vous souhaiter la bienvenue à cette formation mondiale des dirigeants. Le président Monson, qui participera plus tard ce soir, m'a demandé à moi, frère Roland, de diriger cette réunion. À vous tous, missionnaires à plein temps qui suivez cette émission dans le monde entier, nous disons que jamais plus de toute votre vie, vous ne participerez à une aussi grande conférence de zone. Donc profitez-en et instruisez-vous. Aux nombreux membres de l'Église assemblés en de nombreux endroits, nous affirmons que les conseils de paroisse et de pieux ne peuvent plus dire de cette grande armée de missionnaires, ils partent. Non, nous devons maintenant dire « ils arrivent ». Nous devons tous planifier d'utiliser de la manière la plus productive possible cette ressource que nous envoie le ciel. À la lumière de cette unité entre membres et missionnaires, nous vous remercions notre cœur qui est composé de missionnaires du centre de formation de Provo et de membres de conseils de paroisse et de pieux du comté d'Utah. Il a ouvert la réunion en chantant de manière merveilleuse au peuple du monde. Il est dirigé par James Kaysen et Ryan Eggett et accompagné à l'orgue par Seth Bott et Ellen Amatangelo. La prière d'ouverture sera faite par Christopher Ludlow, qui a été appelé à servir dans la mission de Torreón au Mexique.
Cher Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'entendre les paroles de tes serviteurs. Nous te demandons d'avoir ton esprit avec nous afin d'apprendre les choses que nous devons connaître pour nous rapprocher du Christ. Nous sommes reconnaissants pour tous les missionnaires, pour les présidents de mission, pour tous ceux qui ont servi des missions. Et nous te demandons de les bénir afin que et de bénir tous ceux qui viendront au Christ. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils et pour l'expiation. Nous t'aimons et disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Elder Ludlow.
Merci, Frère Ludlow. Nous avons, de par le miracle moderne, j'ai pu me rendre il y a 4 semaines dans la région de Elder Ludlow. Et ils m'ont tous demandé où est Elder Ludlow. Ils veulent tous savoir où vous êtes. Donc, nous avons la chance d'avoir sur nous aujourd'hui, sur l'estrade avec nous, des membres du Collège des 12, des membres des Collèges des 70 et de l'Épiscopat président et de notre présidence générale d'auxiliaires. Leurs épouses sont dans l'audience. En un sens, ils sont représentatifs de vos conseils et de paroisses et de pieux et de l'œuvre que nous accomplissons ensemble. Ici, au siège de l'Église, nous tenons extensivement conseil à propos de toutes les décisions majeures relatives à l'œuvre missionnaire et à toute l'œuvre. Par exemple, en réfléchissant à l'abaissement de l'âge du service missionnaire, nous avons tenu conseil avec tous les conseils et collèges présidents de l'Église, entre autres, les présidences de la Société de secours des jeunes filles et de la primaire. Leurs avis ont été essentiels pour cette décision. Nous espérons qu'il en est aussi ainsi dans vos conseils de pieux et de paroisse, que l'on écoute tout le monde, les frères et les sœurs, sur tous les sujets vitaux, y compris la question très importante de l'œuvre missionnaire par les membres. Donc, dans cet esprit, nous sommes reconnaissants d'être réunis avec vous dans ce qui s'apparente à une réunion de conseils de pieux et de paroisse mondiale. Nous espérons vous guider de notre mieux en ce qui concerne l'œuvre du salut dans vos paroisses et vos pieux. Nous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir avec nous les personnes sur les épaules de qui une grande partie de l'œuvre du salut repose directement. Les présidences d'interrégions, les 70 interrégions, les présidents de pieux, les évêques, les membres de grands conseils chargés de l'œuvre missionnaire et les dirigeants de missions de paroisse, les membres des conseils de pieux et de paroisse, et bien sûr, les missionnaires et les présidents de mission du monde entier. Quelle équipe remarquable vous faites. Et nous sommes ravis de participer avec vous à cette émission historique. Nous saluons ceux qui sont avec nous par satellite ou par Internet. Par exemple, sont avec nous James Matsumori et ses missionnaires de la mission de Washington, D.C. au nord du Nord. Président Matsumori, comment allez-vous?
Nous allons très bien. Elder Holland.
Oui, vous avez bonne allure d'ailleurs, surtout sœur Matsumori.
Merci beaucoup.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, avec les membres de votre conseil de dirigeants de mission. Nous pouvons les voir sur l'écran. Nous sommes reconnaissants que vous soyez avec nous, président et sœur Matsumori. Exprimez notre amour à tous vos missionnaires. Et sœur Matsumori, l'Église, les enfants de l'Église vous envoient votre amour, leur amour. Aujourd'hui, le président Matsumori représente les 450 présidents de mission que nous avons dans le monde. Nous sommes reconnaissants à tous ces présidents de mission et à leurs femmes qui sont actuellement en service et à ceux qui termineront leur service dans quelques jours. Et c'est un moment difficile pour eux. Et à ceux qui sont assemblés ici ce soir au tout début de leur service, en tant que et qui sont dans les formations de prison de mission. Se trouve aussi avec nous Marco Deliozza Guillén, président du Pieux de Magdalena à Lima, au Pérou. Bon après-midi, président.
Bonjour, Aldo Roland.
Vous n'étiez pas prêt à m'entendre parler espagnol. J'étais prêt. Ouais. Merci, président. Nous vous aimons.
C'est un privilège pour nous d'être avec vous, frère Roland. Et merci. Merci beaucoup.
Quelle belle journée. C'est une époque merveilleuse. Nous pouvons avoir cette transmission en direct de Pérou à Provo. Il y a une certaine poésie dans tout cela. Merci, président, d'être avec nous aujourd'hui. Et nous envoyons notre amitié à votre épouse et à tous les membres de votre pieu. Il représente les nombreux merveilleux de présidents de pieux réunis de par le monde avec leur conseil de pieux. Et nous les remercions beaucoup de leur service fidèle dans l'œuvre du salut. Également avec nous aujourd'hui, Ofeina Keunga, évêque de la 4e paroisse de Aula du pieux de l'Aï à Hawaï, et son conseil de paroisse. Allô, frère. Je vais raccourcir mes présentations. Comment allez-vous à Hawaï?
Il fait très beau, il pleut. C'est magnifique.
Bienvenue à Hawaï, c'est beau et nous avons de la pluie. Il fait beau et nous avons de la pluie. Nous vous aimons, frère évêque. Et nous vous aimons ainsi que tous les autres évêques et conseils de paroisse qui participent à cette réunion aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants que vous ayez votre conseil de paroisse. À mesure que le Seigneur nous révélera sa volonté, il y aura des améliorations dans la façon dont nous accomplissons l'œuvre missionnaire. Nous sommes réunis cet après-midi pour vous faire part de certaines de ces améliorations. Des renseignements et conseils supplémentaires vous parviendront par l'intermédiaire des membres des collèges des 70 qui ont des responsabilités clairement définies concernant l'œuvre missionnaire. Quand le Christ établit son Église autrefois, il désigna 70 et il les envoya devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. À notre époque, le Seigneur a commandé aux 12 de faire appel avant tout autre aux 70, et il a indiqué que les 70 sont aussi appelés à prêcher l'Évangile et à être des témoins spéciaux auprès des gentils et dans le monde entier. L'œuvre missionnaire a toujours été un aspect fondamental de l'appel des 70. D'une manière ou d'une autre, tout le monde ici fait rapport à la première présidence et aux 12 par l'intermédiaire des 70. Regardez-les pour recevoir enseignements et conseils, et regardez-les pour avoir un exemple de la manière dont on doit accomplir l'œuvre du salut. Pour chacun de vous, un 70 particulièrement important est le 70 d'interrégion qui préside le conseil de coordination de votre région. La direction et les conseils relatifs à l'œuvre du salut vous parviendront par l'intermédiaire de votre 70 d'interrégion dans ce conseil, où les prisons de pieux et de missions tiennent conseil à propos de l'œuvre missionnaire des membres. En fait, quand les conseils de coordination ont été mis en place, ils étaient appelés « conseils de coordination membres missionnaires ». C'est un aspect historique important à se rappeler. Veillez à ce que chaque conseil continue de mettre l'accent sur cet aspect essentiel de l'œuvre du salut. Je prie que nous soyons tous touchés et instruits par les messages qui seront donnés aujourd'hui. Je témoigne que c'est l'œuvre de notre Père Céleste et qu'il s'y intéresse profondément. Je témoigne qu'en agissant conformément à la direction qui sera donnée aujourd'hui, vous saurez combien Dieu est intimement impliqué dans cet effort. Vous le sentirez vous guider, vous porter, et vous dirigez pour que vous fassiez ce qui serait au-delà de vos seules capacités, mais qui est toujours possible avec lui. J'en rends témoignage au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. À présent, mes frères et sœurs, nous aurons le grand honneur d'entendre Elton Perry du Collège des 12 apôtres, puis un morceau de musique, « J'irai où tu veux ». Frère Perry.
Après cette introduction, je ne sais même plus quoi dire. Je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Nous saluons aujourd'hui la présence des missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo. Regardez-les, ils sont magnifiques. Ces missionnaires nouvellement appelés se préparent à prêcher l'évangile rétabli de Jésus-Christ à chaque nation, langue et peuple. L'abaissement de l'âge d'appel des missionnaires ouvre une nouvelle ère pour l'œuvre missionnaire dans l'Église. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, cet événement a changé notre vie. Cela a été vécu comme un tremblement de terre au siège de l'Église. Je sais que vous et le Seigneur avez élevé des enfants dignes. Nous savons que cela a bouleversé les jeunes gens et jeunes filles concernés. Dans à peine quelques jours, les missionnaires assis derrière moi seront envoyés dans vos paroisses et pieux. Avec l'augmentation incessante du nombre de missionnaires, nous avons demandé « Que feront tous ces missionnaires ?» Notre réponse est qu'ils feront ce que les missionnaires ont toujours fait. Ils suivront le Sauveur Jésus-Christ et prêcheront son évangile rétabli. Le président de mission détient les clés pour présider et diriger la mission qui lui est attribuée. Le président de pieu détient les clés de l'œuvre missionnaire dans son pieu. L'évêque détient les clés pour présider la mission dans sa paroisse. Ils doivent se coordonner et travailler ensemble dans l'unité pour promouvoir l'œuvre missionnaire à notre époque numérique. L'évêque exercera ses clés avec le conseil de paroisse pour identifier et instruire les familles partiellement membres et leurs familles et amis, et les membres non pratiquants et leurs familles et amis. Le message qu'ils donneront, celui de l'expiation du Christ, du Livre de Mormon et des prophètes vivants, il est le même que celui que j'ai donné quand j'étais jeune missionnaire dans les États du Nord. Toutefois, certains des moyens qu'ils utiliseront pour donner ce message sont grandement différents de ceux dont je disposais à l'époque. Quand j'étais jeune missionnaire, nous pouvions parler de l'Évangile avec des gens dans la rue et en frappant aux portes. Le monde a changé depuis cette époque. Maintenant, beaucoup de gens ont une vie très affairée. Ils se précipitent ici et là, sont souvent moins enclins à accepter que de parfaits inconnus entrent chez eux sans y avoir été invités pour donner le message de l'Évangile rétabli. Le moyen principal par lequel ils sont en contact avec les autres, même avec leurs amis proches, est souvent l'Internet. Par conséquent, la nature même de l'œuvre missionnaire doit changer pour que le Seigneur accomplisse son œuvre de rassembler Israël dispersé aux quatre coins de la terre. Les missionnaires ont maintenant l'autorisation d'utiliser l'Internet pour faire du prosélytisme. Au moment les moins productifs de la journée, surtout le matin, les missionnaires pourront utiliser les ordinateurs dans les églises et autres bâtiments de l'Église pour prendre contact avec les amis de l'Église et les membres, œuvrer avec les dirigeants locaux de la prêtrise et les dirigeants de mission, recevoir des coordonnées des membres et prendre contact avec ces personnes, faire le suivi des engagements, confirmer les rendez-vous et enseigner les principes de prêcher mon évangile en utilisant mormon.org, Facebook, les blogs, les courriels et les messages électroniques. Bien sûr, la sécurité est primordiale avec ce nouvel horizon. Et ces technologies vont être présentées dans les mois à venir. Et nous vous tiendrons au courant de tous ces nouveaux outils que nous utiliserons prochainement. Et encore une fois, la sécurité est primordiale avec ce nouvel horizon dans l'œuvre missionnaire. Les missionnaires se serviront d'ordinateurs littéralement côte à côte ou utiliseront un ordinateur à tour de rôle pour témoigner de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Le président de mission surveillera le travail en ligne de missionnaires pour les aider à rester en sécurité. Une remarque que nous recevons souvent des gens intéressés par notre Église est que lorsqu'ils ont le courage de s'arrêter devant l'un de nos bâtiments, ils le trouvent fermé et vide. Nous avons donc décidé d'organiser des visites guidées de nos églises. Les missionnaires seront dans l'église pour accueillir les gens intéressés et les guider dans notre lieu de culte où ils pourront recevoir un enseignement dans un endroit placé sous la forte influence de l'Esprit. Les missionnaires entrent dans cette ère nouvelle où ils utiliseront l'ordinateur dans l'œuvre du Seigneur. Et nous invitons les membres jeunes et moins jeunes, les adultes, les jeunes adultes, les jeunes et les enfants de partout, à se joindre à nous dans cette nouvelle tâche passionnante en devenant amis sur Facebook avec les missionnaires de leur région, en publiant leurs messages de l'Évangile en ligne et en s'impliquant personnellement dans l'œuvre missionnaire. C'est une nouvelle ère. Il y a moins d'un an, le président Monson a fait l'annonce historique de l'abaissement de l'âge du service missionnaire. Depuis, des millions ont répondu à l'appel du prophète et beaucoup d'autres rejoignent leur rang chaque semaine. Il y a 2 jours, le nombre total de missionnaires en service était de 70 000. Il n'y a jamais eu autant de missionnaires de par le monde. Bien sûr, nous devons mettre tous ces merveilleux missionnaires quelque part. Nous avons donc créé 58 nouvelles missions cette année, ce qui porte le nombre total de missions à 405. Cette année, nous avons aussi appelé 173 nouveaux présidents de mission, plus que nous n'en avons jamais appelé en une fois. Il est clair que les missionnaires et les présidents de mission ont répondu à l'appel du Seigneur. Et maintenant, ils nous appellent, nous, membres, à servir à leur côté et au sien dans sa grande œuvre. Tout comme les missionnaires doivent s'adapter à un monde en évolution, les membres doivent aussi changer leur façon d'envisager leur service missionnaire. En disant cela, je souhaite exprimer clairement que ce que nous, membres, devons faire n'a pas changé. C'est notre façon de remplir notre responsabilité de parler de l'Évangile qui doit s'adapter à un monde en évolution. Cela fait 54 ans que le président Mackay a appelé chaque membre à être un missionnaire. Le président Hinckley nous a appelés à utiliser un meilleur moyen de faire l'œuvre missionnaire. Il n'y a pas que le porte-à-porte. Il y a un meilleur moyen. Le président Monson a expliqué que ce meilleur moyen, c'est que les membres et les missionnaires œuvrent ensemble pour prêcher l'Évangile en collaboration. Ces déclarations ne sont que des réaffirmations de ce que Joseph Smith, le prophète, a enseigné. Après tout ce qui a été dit, le devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. Rien dans ces appels à agir des prophètes n'a changé. Notre plus grande responsabilité à tous, quel que soit notre appel ou notre position dans l'Église, est de prêcher l'Évangile. C'est aussi vrai aujourd'hui que ce l'était du temps de Joseph Smith ou à n'importe quelle autre dispensation. Mais alors, de quelle façon pouvons-nous répondre à l'appel du Seigneur de prêcher l'Évangile? L'une de ces façons est de devenir en objectif dans l'œuvre missionnaire. Le Seigneur a déclaré, « Je vous dis, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Être un en objectif signifie plus que d'avoir simplement un but commun. Par exemple, beaucoup de nos enfants s'intéressent au sport populaire qui est le foot. Ils ne tardent pas à atteindre que quand on met la balle au fond des filets, on marque un point. Au début, ils ne comprennent pas les finesses du jeu. Ils ont le même but, marquer un point, mais ne sont pas très bien organisés. Ils se contentent de se ruer en masse sur la balle. Dans l'œuvre missionnaire, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont dans ce cas. Nous pensons connaître et comprendre le but ultime. Pourtant, nous ne voyons pas notre objectif. Nous ne connaissons pas notre poste, c'est-à-dire ce que nous devons faire. Nous manquons de compréhension, pas de désir de bien faire. Demandez à un missionnaire à plein temps présent aujourd'hui, quel est son objectif missionnaire? Je suis sûr que chacun répondrait avec enthousiasme. Mon objectif est d'inviter les gens à aller au Christ, en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Frères et sœurs, si comme l'a déclaré Joseph Smith le prophète, notre devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile, alors notre objectif est clair. En vertu de notre appartenance à son Église, chacun de nous est appelé à inviter les autres à aller au Christ, qu'ils soient d'ailleurs membres pratiquants, nouveaux convertis, membres non pratiquants ou non membres. Si quelqu'un autour de nous, non membre ou membre non pratiquant de l'Église, n'a pas reçu l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, le repentir, le baptême, ni n'a reçu le don du Saint-Esprit, nous l'invitons à le recevoir. Cette responsabilité ne repose pas seulement sur les missionnaires. Parlant de cette mauvaise compréhension, le président Hinckley a déclaré « Nous pouvons laisser les missionnaires essayer de faire cela seuls, ou nous pouvons les aider. S'ils font cela seuls, ils frapperont aux portes jour après jour et la moisson sera maigre. Ou bien, nous pouvons les aider, nous les membres, à trouver et à instruire des gens. Le moment est venu pour nous de comprendre qu'en tant que voisins, amis et membres d'une famille partiellement membre, nous sommes idéalement placés pour lancer une invitation avec l'amour et la considération que les gens que nous invitons méritent vraiment. Nous espérons que l'invitation sera acceptée. Mais si ce n'est pas le cas, nous continuerons de montrer notre amitié et notre amour chrétien pour que celui que nous avons invité sache que la relation que nous avons nourrie et entretenue n'était pas intéressé, mais est une amitié réelle et durable. Bien sûr, l'Église du Seigneur est une Église d'ordre, et son œuvre ira de l'avant, dirigée par les clés appropriées de la prêtrise. Sous la direction de l'évêque, le conseil de paroisse élabore un plan de mission de paroisse. Ce dernier doit être court et simple. Il doit comprendre des activités et des buts précis qui aideront les membres des organisations de la prêtrise et des auxiliaires de paroisse à participer à l'œuvre missionnaire par les membres, au maintien des convertis dans l'Église et à la remotivation. Le conseil de paroisse, avec le dirigeant de mission de paroisse, coordonne le plan de mission de paroisse avec les plans des missionnaires à plein temps affectés à la paroisse. L'évêque dirige l'œuvre du salut dans la paroisse avec le conseil de paroisse. Le conseil de paroisse identifie les gens qui pourraient recevoir une invitation à suivre l'enseignement des missionnaires ou à redevenir pratiquants et décide qui dans la paroisse est le mieux placé pour lancer cette invitation avec amour et respect. Le président du Collège des Anciens et le chef du groupe des grands prêtres sont membres du conseil. de paroisse. Ils ont la responsabilité d'identifier les membres non pratiquants de leur collège et, en collaboration avec les autres membres du conseil de paroisse, de les amener à redevenir pleinement pratiquants dans l'Église. La bénédiction de rapporter la prêtrise dans leur foyer bénira des familles entières pendant des générations. Le conseil de paroisse identifie alors les membres non pratiquants qui peuvent recevoir la visite et l'enseignement des missionnaires à plein temps. Le dirigeant de mission de paroisse, qui est membre du conseil de paroisse, travaille avec les missionnaires pour remplir leur agenda des noms des personnes qui bénéficieraient le plus de leur visite. Bien que les missionnaires à plein temps soient responsables d'instruire les amis de l'Église, ils peuvent et devraient être accompagnés par des membres du conseil de paroisse, les missionnaires de paroisse ou des membres qui ont un lien particulier avec ces amis. Les membres qui accompagnent les missionnaires doivent rendre témoignage des principes enseignés dans les leçons missionnaires et appuyer sur ces principes entre les rendez-vous avec les missionnaires. Le conseil de paroisse peut demander aux missionnaires à plein temps d'aider les missionnaires de paroisse à faire des visites d'enseignement au foyer ou d'instruction aux membres non pratiquants ou pour donner les leçons aux nouveaux convertis. Nous savons que trop peu de nos récents membres reçoivent les leçons pour les nouveaux convertis. Le Seigneur veut que nous œuvrions avec zèle à une bonne cause, faisant beaucoup de choses de notre plein gré. Quand je dis « d'œuvrer avec zèle à une bonne cause », je pense à l'un de mes amis Scott. Scott a quelques difficultés qui le limitent dans certains domaines, mais dans d'autres, il est extraordinaire. Par exemple, son audace missionnaire égale celle des fils de Mosiah. Je pense que dans l'esprit de Scott, il est inimaginable que tout le monde ne soit pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que tout le monde n'ait pas lu le livre de Mormon et n'ait pas un témoignage de sa véracité. Un jour où Scott faisait seul son premier voyage en avion pour voir son frère, un voisin assis près de lui a entendu cette discussion. « Bonjour, je m'appelle Scott, et vous ?» Cette personne lui donna son nom. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je suis ingénieur. »« C'est bien. Où habitez-vous ?»« À Las Vegas. »« Nous avons un temple là-bas. Est-ce que vous savez où se trouve le temple mormon ?»« Oui, c'est un très beau bâtiment. »« Vous êtes mormon ?»« Non. »« Eh bien, vous devriez. C'est une religion formidable. »« Est-ce que vous avez lu le livre de Mormon ?» Non. Eh bien, vous devriez. C'est un livre formidable. Personne n'avait demandé à Scott de parler à ce passager. Je ne sais même pas s'il a consciemment pensé à son alliance du baptême, d'être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez jusqu'à la mort. Et pourtant, son invitation montre sans aucun doute que cette alliance faisait partie de lui. De même, nous n'avons pas besoin, ni ne devrions attendre qu'on nous le demande pour inviter notre famille non-membre, un ami ou un voisin à aller à l'église, à lire le livre de Mormon ou à rencontrer les missionnaires à plein temps. Quand nous faisons nos visites d'enseignement ou de l'enseignement au foyer, nous n'avons pas besoin qu'on nous demande d'inviter les membres non pratiquants que nous visitons à redevenir pratiquants ou à se préparer à recevoir les bénédictions du temple. En plus de l'alliance citée plus haut, nous avons aussi fait alliance de porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers et de pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Quand nous nous acquittons de notre responsabilité de parler de l'Évangile et d'aider nos amis et voisins non pratiquants à redevenir pratiquants, nos efforts seront plus efficaces si nous recherchons l'inspiration et agissons avec amour, tant pour le Sauveur que pour la personne dont nous nous occupons. Par exemple, souvenez-vous de la prière prononcée par Alma, tandis que ses compagnons et lui se préparaient à instruire les Oramites. Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Alma savait que chaque individu qu'il avait été envoyé à instruire était un enfant spirituel de Dieu et son frère spirituel, et il l'aimait. Après avoir prié, Alma et ses compagnons ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis immédiatement au travail. En faisant le lien entre la prière d'Alma et son expérience avec notre époque, le président Hinckley a dit « Faisons mieux prendre conscience à chaque membre intimement qu'il est capable d'amener les autres à la connaissance de la vérité, qu'il s'y emploie, qu'il prie avec beaucoup de ferveur à ce sujet, que chaque membre prie comme Alma jadis. » L'œuvre du Seigneur va de l'avant quand chacun de nous comprend et atteint son objectif. La prêtrie sera fortifiée et nous connaîtrons une grande réussite dans l'œuvre missionnaire et la remotivation quand le conseil de paroisse, les membres et les missionnaires à plein temps seront unis dans l'objectif du Seigneur. J'ai été de nombreuses fois témoin de ces vérités. Il n'y a certainement jamais eu d'époque aussi passionnante pour être impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Dans un monde où nous pouvons si facilement rendre témoignage, le royaume de Dieu se répandra certainement comme la pierre dans le rêve de Nebuchadnezzar jusqu'à remplir toute la terre. Puissions-nous, membres et missionnaires, être toujours unis dans l'accomplissement de notre objectif missionnaire d'aider les autres à aller au Christ. Puissions-nous être une lumière et un phare pour toute la terre, en particulier pour les enfants de Dieu qui recherchent les bénédictions du Seigneur. C'est là ma prière et mon espoir, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our thanks to
Merci, Frère Perry, pour cet enseignement et cette vidéo qui vos remarques qui étaient particulièrement poignantes concernant notre responsabilité de membres d'inviter les gens à aller au Christ et à avoir part à l'Évangile. C'est une responsabilité que nous éludons parfois par crainte qu'une invitation à rencontrer les missionnaires ou à aller à l'église offense un voisin ou un ami ou même un membre de notre famille, comme ce que nous avons vu dans ces vidéos. Mais cependant, une invitation née de l'amour, de l'amour que nous avons pour les autres et pour le Seigneur Jésus-Christ et du désir que nous avons qu'ils soient heureux, ne sera pas perçue comme insultante ou porteuse de jugement. La dernière recommandation du Seigneur ressuscité à ses disciples a été d'instruire et de baptiser. Le baptême est la première ordonnance essentielle sur le chemin du salut. Les Écritures nous parlent de la joie du Seigneur quand nous baptisons des personnes repentantes et qualifiées. Nous devrions être désireux de le faire et de lui donner cette joie. Ce qui est merveilleux, c'est que cela nous apporte aussi de la joie à nous. Nous aurons maintenant l'honneur d'entendre Neil L. Anderson du Collège des Douze. Après lui, nous entendrons un pot-pourri de cantiques missionnaires. Frère Anderson.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, l'une des grandes bénédictions de ma vie est de me trouver parmi vous dans vos pieux presque toutes les semaines. Dans tous les pays et dans toutes les cultures, nous, les autorités générales, avons le plaisir de ressentir votre bonté et votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il vous aime et nous nous réjouissons de votre disposition à le suivre et à respecter ses commandements. Nous remercions les membres des conseils de pieux et de paroisses qui veillent sur le royaume de Dieu et qui sont des instruments entre ses mains pour servir ses fils et ses filles. Quand nous servons dans nos conseils et nos présidences, nous nous souvenons tous constamment que notre œuvre est spirituelle. Bien que nous soyons assis ensemble dans les réunions de conseil, notre travail commence à genoux. Quand nous recherchons l'inspiration du Seigneur, et bien que parfois nous regardions un calendrier, c'est lorsque nous quittons nos réunions en mission pour le Seigneur que nous réalisons ses desseins les plus importants. Nous œuvrons ensemble dans la foi et l'unité. La foi que le Seigneur guidera nos pas et l'unité entre nous et avec les missionnaires, toujours motivés par notre amour pour lui, les uns les autres et pour les personnes que nous servons. Ces principes spirituels ont toujours fait partie de l'œuvre du Seigneur. Je suis sûr qu'ils sont très évidents dans vos conseils de paroisse quand vous servez ensemble. Je vais vous raconter trois histoires vraies liées à une tâche que j'accomplissais il y a quelques semaines à Tampa, en Floride. Pendant la projection, pensez aux choses positives qui ont lieu dans votre conseil de paroisse. Notre première histoire commence dans le conseil de paroisse de Brooksville, en Floride.
En examinant nos listes de présence, nous avons remarqué des noms que nous ne reconnaissions pas. Celui de Sœur Kane. Dans nos conseils de paroisse, nous attribuons la tâche précise de rendre visite à diverses familles et les membres. J'ai vu la différence quand ils se portent spontanément volontaires. Frère, j'irai.
C'est l'essence même de notre œuvre sacrée, recevoir une impression spirituelle et désirer la suivre. Dans la paroisse de Brooksville, c'est Sœur James qui s'est proposée.
J'ai reçu la visite de Sœur James et des missionnaires. Et elle m'a invitée à des activités et autres qui m'ont permis d'avoir une amie dans l'église, en fait. Et vous savez, c'est ce qui a fait la différence et que je me suis sentie la bienvenue à nouveau.
Si nous abordons nos conseils de paroisse dans un esprit de prière, la révélation vient. Sir James était disposé, une tâche a été confiée et des miracles ont suivi. Très vite, le mari de Sir Ken, qui n'était pas membre de l'Église, a aussi commencé à sentir l'influence du Seigneur.
Un dimanche, sans qu'on s'y attende, il s'est réveillé et il a dit « Je crois que je vais aller à l'église avec vous aujourd'hui ».
Frère Kane est venu et peu de temps après la réunion de Sanson, il est reparti. J'ai vu Sir Kane, je lui ai demandé où était son mari. Elle a dit « Il est dans le parking, il est prêt à rentrer à la maison ». Et je lui ai demandé si cela ne la dérangeait pas que je me présente. C'est ce que j'ai fait.
Le conseil de paroisse, les missionnaires, Sir James, l'évêque, voyez-vous l'unité? L'évêque s'est ensuite senti poussé à inviter frère et sœur Kane à rencontrer le président de Pieux.
Il a dit, « Je voudrais que vous veniez et deveniez membre de l'Église. Qu'en pensez-vous ? » Et je me suis dit que c'était très agréable d'avoir quelqu'un qui croit en moi et qui me veut vraiment. C'est plaisant d'être désiré.
Ce que frère Kane a ressenti avec les prisons de Pieux est la même chose que ce qu'il ressentait depuis quelque temps. Il a ressenti l'amour du Seigneur pour lui lorsque cet amour a afflué de la part des dirigeants, des membres et des missionnaires œuvrant dans l'unité.
À partir de là, nous avons commencé à l'inviter aux réunions de Sanson, l'accueil qu'il a reçu de la part de la paroisse, puis l'esprit qu'il a ressenti grâce à notre amour. C'est vraiment là qu'il a commencé à changer.
Quand j'ai parlé avec le conseil de paroisse de Brooksville, Aaron Ciccarello, l'évêque, a exprimé ce que chacun ressentait profondément.
L'amour que nous éprouvons pour ces personnes a beaucoup grandi. Nous sommes tous ensemble dans cette œuvre et nous sommes un assortiment de dirigeants imparfaits. Et la différence la plus importante, c'est que nous savons que c'est son œuvre et qu'il ne permettra pas que nous échouions si nous faisons de notre mieux.
C'est très important. Si nous faisons de notre mieux, il ne permettra pas que nous échouions. Nous nous sentons tous incompétents, mais comme l'a dit le président Monson, quand le Seigneur nous confie une mission, nous avons droit à son aide. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous savons que des miracles découleront de notre foi. Néphi disait qu'il était conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce qu'il allait faire. C'est l'attitude d'un disciple. Nous ne savons pas toujours ce qui nous attend, mais le Seigneur le sait. Et si nous lui faisons confiance, il nous conduit par la main, et il en résulte des miracles. J'aime la déclaration du Seigneur. Je suis un Dieu de miracles et je ne travaille parmi les enfants des hommes que selon leur foi. Ce principe est vrai dans toutes les nations, dans toutes les cultures et dans toutes les langues. Il y a à peine un mois, à Hong Kong, j'ai utilisé une petite caméra vidéo pour enregistrer quelques brefs pensées et sentiments de dirigeants locaux de l'Église. Frère Cheikh, avez-vous identifié 3 ou 4 familles que les missionnaires pourraient vous aider à ramener à l'Église?
Oui, en fait, nous avons une histoire de réussite. La famille Wang n'était plus pratiquante depuis 5 ou 6 ans. Les missionnaires rendaient visite à la famille. Les membres jeûnaient et priaient pour elle. Et que, quand elle a été prête, nous l'avons ramenée.
De l'aide est toujours disponible si nous avons la foi.
Quand nous faisons preuve de foi, nous découvrons souvent que les bénédictions du Seigneur diffèrent de celles auxquelles nous nous attendions, mais qu'elles sont bien meilleures que ce que nous avions imaginé. Notre deuxième histoire illustre ce principe. Elle commence avec Victor Patrick, du Pieux de Tampa, en Floride. Sa famille et lui recherchaient l'inspiration du Seigneur. Ils se sont sentis poussés à inviter leurs amis et leurs voisins au baptême imminent de l'une de leurs filles.
Plusieurs personnes sont venues. Sur le moment, aucune n'a manifesté un quelconque intérêt pour l'Église. Et donc, au cours d'une réunion de pieux, j'ai expliqué le plan Patrick, ce que nous avions fait, et c'était bien. Beaucoup de personnes étaient venues au baptême, mais jusqu'à présent, il ne s'était rien passé. Sœur Palmer était présente à la réunion.
L'an dernier, j'ai entendu le président Patrick faire un discours. Il a simplement mentionné, en passant, que sa femme avait ajouté au cœur d'invitation aux anniversaires de ses filles une invitation à leur baptême. Donc, j'ai aussi ajouté un petit mot manuscrit, les invitant tous au baptême. Mais malheureusement,
personne n'est venu. Et nous n'en savions rien à ce moment-là, mais l'une de nos voisines était en train d'être préparée.
Le Seigneur a inspiré à la fois le président Patrick et Sœur Palmer. Mais pour un miracle auquel nous ne s'attendions pas, nous ne pouvons pas toujours voir la fin dès le commencement. Nous faisons confiance au Seigneur et nous nous appuyons sur lui, sachant qu'au moment choisi par lui et à sa manière, il accomplira des miracles. Pendant qu'il inspirait le président Patrick et sœur Palmer, il préparait aussi sœur Valérie Adams, une membre non pratiquante qui n'était pas allée à l'église depuis plus de 10 ans. Son fils et le fils Palmer étaient de bons camarades d'école. Racontez-nous un peu comment cela a commencé pour votre famille.
Je faisais des rêves au sujet de l'Église et il n'avait rien de particulier. Environ 2 semaines plus tard, quelqu'un frappe à la porte et c'est cet adorable petit garçon qui est à ma porte et qui a une petite carte d'invitation pour un anniversaire et il me la donne. Et dans l'invitation, il y a une autre invitation et en fait, je l'ai apportée cette invitation.
Je veux la voir.
Oui, je l'ai conservée parce que j'y tiens beaucoup. Alors quand je l'ai lue, j'ai regardé autour de moi en me disant « Oh là là !»
Parce que quelqu'un veillait sur vous.
Exactement, c'est un signe. Alors je suis allée à la fête d'anniversaire. Je suis entrée, j'ai simplement dit « Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai été baptisée dans l'église. »
Immédiatement, Valérie et sa famille ont été entourées d'amour et d'amitié par un merveilleux groupe de membres et de missionnaires. Les missionnaires sont devenus les instructeurs. Valérie est vite revenue à l'église et Derek, son mari, a été baptisé, puis il a baptisé leur fils aîné, Brayden. Voyez-vous comment le Seigneur accomplit son œuvre? Notre Père Céleste connaît ses enfants. Il entend leurs prières. Il sait qui le recherche et il nous guidera vers ces personnes. Comme le dit Amon dans le Livre de Mormon, elles sont entre les mains du Seigneur de la moisson. Et elles lui appartiennent. C'est un principe important de foi qui a guidé la vie de notre prophète, le président Monson. Il a dit, « Il ne suffit pas de souhaiter. Le Seigneur veut que nous agissions. » Notre troisième histoire met très bien l'accent sur cet enseignement. Elle commence avec Rodney Kelly, un évêque, qui éprouvait le besoin d'aider sa paroisse à passer à l'action.
Nous avions de très grandes difficultés à avoir des baptêmes dans notre paroisse. Et nous avons pris conscience que le Seigneur ne nous accorderait pas de nouveaux convertis tant que nous ne prendrions pas soin des personnes que nous avions déjà dans notre paroisse.
L'évêque et le conseil de paroisse ont pris conscience que cela ne suffisait pas de parler de personnes, ils devaient agir.
Alors, en tant qu'épiscopat, nous avons commencé les premiers. Et nous prenions des noms que nous ne connaissions pas et nous les cherchions. Nous avons invité le comité exécutif de la prêtrise à se joindre à nous, puis plus tard, nous avons lancé l'invitation à tout le collège des anciens et au groupe des grands prêtres. Et nous leur avons demandé d'y consacrer un mardi ou jeudi soir par mois.
Quand les dirigeants de la paroisse et les missionnaires ont commencé à se tourner vers les autres et à les bénir, il s'est produit un grand changement dans la paroisse. L'Esprit du Seigneur s'est épanoui. Les missionnaires à plein temps ont remarqué une différence.
Nous avions le dirigeant de mission de paroisse qui nous appelait tous les jours. Mais pas seulement ça. L'évêque nous appelait sans cesse, puis les membres qui voulaient participer de toutes les manières possibles.
Les dirigeants et les missionnaires de la 4e paroisse de Tampa m'ont raconté leurs histoires quand j'ai assisté à leur conseil de paroisse.
Je sais que quand je suis arrivé et que j'ai commencé à parler de ces visites hebdomadaires, je me suis dit « ça va prendre beaucoup de temps ». Mais j'ai découvert en rendant visite aux gens et en suivant les instructions de l'évêque et les directives qu'il donnait, qu'il se passait des choses incroyables.
Quand le premier soir, j'ai vu un changement avec les sœurs. Quand elles faisaient les choses qu'elles devaient faire et donnaient de l'amour à tous les autres,
quand ces moments spirituels se produisaient, tout le monde voulait y être. Les membres actifs de la paroisse voulaient vivre ces moments spirituels.
Le premier soir, ils faisaient des équipes membres missionnaires. C'était très motivant pour moi, pour pouvoir enseigner les autres et les ramener au troupeau.
À l'occasion de ce même voyage en Asie, il y a un mois, je suis allé en Inde. Les dirigeants là-bas comprennent ces mêmes vérités spirituelles. Ils ont fait part de leur idée devant la petite caméra que j'avais.
Nous allons chez eux, oui, nous allons chez eux. Et nous essayons de rendre notre témoignage et de les aider. Et et nous les aimons et essayons de les ramener.
Lorsque nous rendons notre témoignage, l'Esprit se manifeste dans la pièce. Les amis de l'Église ou les membres non pratiquants peuvent le ressentir. Et ils décident de revenir parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'important qui leur manque vraiment dans la vie.
Pour nous aider tous, il y a une nouvelle rubrique sur lds.org intitulée « Athée, l'œuvre de salut ». Vous y trouverez de la documentation utile, dont d'autres histoires et exemples de dirigeants, membres et missionnaires du monde entier qui, comme vous, œuvrent ensemble dans la foi et l'amour pour athée l'œuvre du Seigneur. Si nous faisons notre mieux, le Seigneur sera avec nous. Nous lisons dans les Écritures, « Les serviteurs allèrent et travaillèrent de toutes leurs forces, et le Seigneur travailla aussi avec eux. » Assis sur l'estrade à l'occasion de la conférence du Pieux de Tampa en Floride, j'étais étonné de voir 32 frères soutenus pour recevoir la prêtrise de Melchisédek. Ils venaient de paroisses et de pieux très semblables à ceux dans lesquels vous vivez et où vous servez. Au fur et à mesure que chaque homme se levait, je pensais au miracle qui s'était produit dans sa vie et dans la vie de la femme et des enfants qui l'entouraient. J'ai pensé aux dirigeants, aux membres et aux missionnaires qui avaient œuvré avec unité et à leur amour et leur service chrétien. J'ai pensé à l'inspiration divine du Seigneur tandis qu'il faisait preuve de foi. J'ai pensé aux paroles de Moroni, « Les miracles ont-ils cessé ? » Ou « Les anges ont-ils cessé d'apparaître aux enfants des hommes ? » Ou « Leur a-t-il refusé le pouvoir du Saint-Esprit ? » Voici, je vous dis que non, car c'est par la foi que les miracles s'accomplissent. Je vous rends mon témoignage certain, Jésus est le Christ. Il est notre Sauveur et Rédempteur. C'est son œuvre sacrée. Je vous promets qu'il vous guidera et qu'il sera avec vous si vous recherchez humblement son aide dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson.
Merci, frère Anderson. Et à tous les jeunes qui sont déjà en mission. La première étape pour établir l'Église consiste à faire descendre quelqu'un dans les eaux du baptême. Les messages que nous avons eus, la bénédiction d'entendre aujourd'hui, nous ont enseigné comment établir ou rétablir l'Église dans le foyer de nos amis, de nos voisins et des familles qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'accepter ou qui s'en sont éloignées. Nous aurons maintenant la grande bénédiction d'entendre Russell M. Nelson, qui, entre autres responsabilités au sein du Collège des Douze, est président du Conseil exécutif missionnaire. J'ai eu le plaisir d'être son compagnon en second dans ce conseil. Après Frère Nelson, l'un des maîtres pédagogues contemporains, Boyd K. Packer, le président du Collège des Douze Apôtres nous enseignera dans une vidéo comment enseigner Frère Nelson, donc, puis la vidéo du président Packer.
Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être parmi vous en cette occasion spéciale. Cette réunion est historique parce que nous avons ici 173 nouveaux présidents de mission ainsi que leurs femmes. Ils viennent de 19 pays et vont servir dans 50 pays du monde. Ce chiffre record de nouveaux présidents de mission est un signe important que le Seigneur hâte son œuvre. L'œuvre missionnaire prend vie quand nous entendons des histoires remarquables de conversion individuelle. Je vais commencer mon message aujourd'hui par une conversation enregistrée récemment avec Sœur Neil F. Marriott, soutenue en avril dernier comme deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Vous pourrez tirer de nombreux enseignements de son histoire si vous écoutez attentivement. Sœur Marriott, j'ai déjà eu le plaisir de collaborer avec vous plusieurs fois et votre cher mari, David, mais la plupart des membres de l'Église ne vous connaissent pas aussi bien que moi. Pourriez-vous nous parler un peu de votre conversion à l'Église?
Merci, frère Nelson. J'avais 22 ans quand j'ai emménagé à Boston, au Massachusetts, pour travailler. Et j'y ai rencontré deux membres de l'Église. Et l'un d'eux m'a dit, « Je suis mormon. » Mes colocataires et moi, nous avons demandé, « C'est quoi un mormon ?» Alors l'un d'eux a répondu, « Eh bien, est-ce que vous aimeriez que nous invitions deux amis chez vous pour qu'ils vous en disent plus sur nos croyances ?» Environ une semaine plus tard, ils sont venus avec leurs deux amis et je posais les yeux sur des missionnaires mormons pour la première fois. Et je dois dire que j'avais de très nombreuses questions. Mais ils ont continué à venir. Et ils sont finalement revenus au plan du salut. Je me souviens encore très bien de cette soirée. Ils ont dit, « Avant de venir ici, vous viviez avec notre Père Céleste dans le monde des esprits. Vous êtes une de ces filles d'esprit. » J'ai reconnu ces paroles, frère Nelson. Elles m'étaient familières. Je ne les avais jamais entendues dans cette vie, mais j'ai su que je les avais déjà entendues quelque part. Et à la fin de cette rencontre, un des membres a pris la parole et il a dit, « J'aimerais vous poser une dernière question. » Il m'a regardé dans les yeux et il m'a demandé, « Neil, qu'est-ce que vous pensez du Livre de Mormon ?» Et les mots qui sont sortis de ma bouche ont été, « Je pense qu'il est vrai. » J'étais tellement étonnée d'entendre ces paroles flotter autour de nous. « Je pense qu'il est vrai. » Alors très judicieusement, il ne s'est pas jeté sur moi, mais il a seulement dit, « Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette connaissance maintenant ?» Et je lui ai promis que ce soir-là, je prierai sincèrement. Et je me suis agenouillée dans ma chambre. Et j'ai simplement dit, « Père Céleste, si c'est la seule véritable Église du Sauveur sur terre, je me ferai baptiser. » J'ai juste besoin de savoir si c'est vrai. Et immédiatement, une voix dans ma tête ou dans mon cœur a dit, « C'est vrai. » comme ça. Je me suis relevée d'un bond et j'ai dit, « C'est vrai !» Presque surprise par cette merveilleuse réponse. Et le lendemain matin, j'ai téléphoné au mission, président de mission et je lui ai dit, « Bonjour, il faut que je me fasse baptiser. »
Il devait être content de vous, d'avoir de vos nouvelles. Est-ce que vous ressentiez quelque chose pour vos ancêtres?
C'est intéressant que vous me posiez cette question. Parce que mon tout premier appel à l'Église a vraiment été inspiré. L'évêque m'a fait entrer dans son bureau et il m'a demandé si je voulais faire partie du comité généalogique. J'ai écrit à mes deux grands-mères octogénaires. Je me souviens que ça a pris plusieurs semaines, mais une boîte à chaussures est arrivée au courrier. Elle était pleine de photos et au dos des noms, des petites annotations. Alors je me suis assise par terre dans ma chambre et j'ai commencé à faire des piles de familles. Les Dead, les Hill, les Ray, les Fielding. Et je triais et quand tout à coup j'ai levé les yeux. Je ne voyais rien, mais la pièce était pleine. J'ai eu l'impression qu'elle était pleine de gens très intéressés et très heureux. Et je ressentais leur présence. Je pense que durant les deux ou trois premières années qui ont suivi mon baptême, j'ai fait environ 70 noms. Environ 70 personnes qui ont reçu leur dotation au temple. Je les ai envoyées à des parents de David, mon mari. Je devrais parler un peu de David.
Oui, parlez-nous de David, s'il vous plaît.
David est unique. Il était l'un des membres qui nous ont demandé si nous voulions en savoir plus sur l'Église. Et nous nous sommes mariés au temple de Salt Lake City, seulement 13 mois après mon baptême.
En voilà une agréable récompense pour avoir été un membre missionnaire.
Oui, je le conseille.
David et vous avez une belle famille maintenant. Parlez-nous de votre famille.
Eh bien, nous avons 11 enfants. Quand nous nous sommes mariés, nous voulions avoir une famille, fonder un foyer. Et les enfants sont arrivés. Ils étaient des esprits d'élite.
Est-ce que vous auriez des recommandations à faire à nos merveilleuses sœurs qui essaient de trouver l'équilibre entre leur rôle d'épouse, de mère et de fidèle servante et disciple du Seigneur?
Eh bien, j'aime les réunions de l'Église. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais mon cœur est dans mon foyer. Donc, dans chacun de mes appels, et il semblait vraiment s'appuyer sur les précédents, je prenais d'abord soin de mon foyer. Donc, j'ai raté quelques réunions, mais il n'y avait pas d'intrusion dans notre vie de famille. Si cela m'a appris quelque chose, ça a été être une meilleure mère.
Vous êtes une meilleure mère parce que vous êtes ancrée à l'Évangile.
C'est ça.
Nous vous sommes très reconnaissants pour les services que vous avez rendus et allez encore rendre.
Merci.
Merci, Sœur Mariotte. Vous ne trouvez pas son histoire inspirante et instructive? Vous avez remarqué la coopération entre les membres et les missionnaires? Est-ce qu'il se souciait vraiment d'elle? Il est même devenu son mari. Vous avez senti le rôle des membres de sa famille, de l'autre côté du voile, qui se souciait d'elle aussi? Est-ce que vous avez ressenti la bonté d'une femme qui aime son mari et ses enfants? Quand je perçois la joie qu'elle a reçue pour elle-même et les générations suivantes, mon témoignage est fortifié et mon enthousiasme à faire connaître l'Évangile augmente. Trop souvent, nous divisons l'œuvre du Seigneur en parties qui ne nous semblent pas liées, que ce soit prêcher l'Évangile aux non-membres, servir avec les nouveaux convertis, remotiver les membres non pratiquants, instruire et fortifier les membres pratiquants ou accomplir l'activité de l'histoire familiale et du temple. L'œuvre est indivisible. Elles ne sont pas séparées. Elles font toutes partie de l'œuvre du salut. Les personnes qui se trouvent de l'autre côté du voile se réjouissent et chantent des louanges quand leurs descendants acceptent l'Évangile ou y reviennent, car elles savent que leurs descendants sont maintenant en mesure d'accomplir les ordonnances essentielles du Temple en leur faveur, liant des générations passées. C'est une leçon que Sœur Mariotte a apprise peu après son baptême. J'espère que chaque membre de l'Église aura l'occasion de sentir cet amour édifiant de ses ancêtres. Pour illustrer la manière dont notre Père Céleste attend de nous que nous nous aimions les uns les autres, je vais vous raconter une parabole intitulée « Un père à l'heure du coucher ». Un soir, un père aimant est assis chez lui après que sa femme et ses enfants sont allés se coucher. Il se sent poussé, inspiré, à vérifier que les enfants vont bien. Il ôte ses chaussures et arrive doucement à la porte d'une chambre. À la faible lumière de la porte ouverte, il voit deux petites têtes sur les oreillers et des couvertures recouvrant ses enfants pelotonnés, profondément endormis. En écoutant leur douce respiration, il se remémore des scènes de la journée. Il entend leur rire quand ils jouaient ensemble. Il voit leur sourire quand ils ont pique-niqué et leur rire quand on les a surpris à donner à manger de la glace aux chiens. La patience envers les enfants est plus facile quand ils sont endormis. Tandis qu'ils sommeillent, ils se demandent ce dont ils ont besoin et comment il peut les aider. Il éprouve un grand amour et un fort sentiment de responsabilité vis-à-vis de leur protection. Sur la pointe des pieds, il va voir la deuxième chambre où deux enfants aînés doivent se trouver. Il voit deux lits, mais son cœur s'arrête de battre pendant une seconde quand il découvre que l'un de ses lits est vide. Il tourne les talons et se dirige vers la bibliothèque où il a parfois trouvé sa fille quand elle n'était pas dans sa chambre. Il la trouve dans un fauteuil en train de lire un livre calmement. Elle explique, « Je n'arrivais pas à dormir. » Il tire un fauteuil près d'elle. Il parle de sa journée, de ses amis, de ses buts et de ses rêves. Plus tard, elle retourne se coucher. Le père fait un dernier tour avant d'éteindre les lumières et d'aller au lit. Le matin, le père aide sa chère épouse à préparer le petit déjeuner. Il met la table pour chacun de leurs enfants, même pour le plus jeune, qui aime dormir un peu plus. Les bonnes odeurs de la cuisine éveillent les enfants qui accourent avec une certaine agitation et des bavardages. Mais l'une des chaises est vide. Le père leur dit d'attendre qu'il aille réveiller l'enfant qui manque. Bientôt, toute la famille est réunie pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que cette parabole toute simple peut nous apprendre? Le père a suivi son impression de vérifier si ses enfants allaient bien. Il a évalué sa relation avec eux. Il a cherché l'enfant qui manquait. Ses actes étaient tous motivés uniquement par l'amour. Il n'a pas fait ce qu'il a fait parce qu'il a lu un manuel. Personne ne lui a donné une liste de choses à faire. Il a suivi ses sentiments. Il en est ainsi de l'œuvre missionnaire. Les missionnaires les plus efficaces agissent toujours par amour. L'amour est ce qui facilite l'œuvre missionnaire et lui donne vie. Le père de cette parabole aimait chaque enfant. Nous aussi, nous devons donc agir par amour pour aider tout le monde, pas seulement quelques rares privilégiés. Les occasions se présentent sous différentes formes et malheureusement, certaines d'entre elles sont des occasions manquées. Il y a un exemple dans ma propre famille. Mes 8 arrière-grands-parents se sont convertis à l'Église en Europe. Ils ont tous immigré en Amérique. L'Évangile était tout pour eux. Cependant, certaines personnes de la génération de mes parents ont cessé d'être pratiquantes dans l'Église. Par conséquent, j'ai grandi dans un foyer dans lequel mes parents n'allaient pas aux réunions de l'Église. Pendant mes nombreuses années de spécialisation et de recherche en chirurgie, ma femme et moi avons vécu loin de nos parents, avec nos enfants, dans d'autres régions du pays. Ma préoccupation constante, voire mon angoisse, pour le bien-être éternel de mes parents bien-aimés, m'a poussé à écrire une lettre sincère à leur évêque. Je le connaissais bien et j'avais très bon espoir qu'il pourrait aider. J'ai exprimé mon amour pour mes parents et j'ai demandé à ce gentil évêque s'il pouvait demander à quelqu'un d'enseigner l'Évangile à mes chères mères et pères ou appeler quelqu'un pour cela. Plus tard, j'ai reçu une réponse de leur évêque. Il a écrit qu'il était très désolé, mais qu'il n'y avait personne à qui il pouvait faire appel pour instruire mes parents. La réponse de l'évêque a anéanti mes espoirs. Il n'avait personne pour l'aider. À notre époque, cela ne devrait jamais arriver. Un évêque n'a plus jamais à se sentir désarmé. Maintenant, les évêques ont des membres dans leur conseil de paroisse, des dirigeants de missions de paroisse et des missionnaires prêts et disposés à participer au sauvetage de parents d'enfants suppliants et capables de le faire. Des décennies plus tard, mes parents se sont véritablement convertis au Seigneur. Ils ont été scellés au temple et leurs enfants leur ont été scellés. Mais je n'oublierai jamais la leçon que j'ai tirée de leur expérience. Est-ce qu'un Père céleste aimant, qui nous a commandé de prêcher l'Évangile à chaque créature, ferait une ligne de démarcation entre les personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile et celles qui l'ont entendu un jour, puis qui l'ont oublié? Il est clair que la réponse est non. L'œuvre du salut n'exclut personne. Les missionnaires et les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont envoyés à travailler dans sa vigne du Seigneur pour le salut de l'âme des hommes. Cela comprend l'œuvre missionnaire par les membres, quand elle fonctionne bien, la remotivation des membres non pratiquants et la préparation des enfants de Dieu aux bénédictions du Temple. Dieu veut que tous ses enfants se qualifient pour la vie éternelle. L'œuvre missionnaire dans le royaume du Seigneur est un effort de sauvetage. Notre président bien-aimé, Thomas S. Monson, nous a enseigné à maintes reprises les efforts que nous devons faire pour porter secours. Il a dit, « Mes frères, nous pouvons tendre la main à ceux dont nous sommes responsables et les amener à la table du Seigneur afin qu'ils s'y fassent un festin de sa parole et bénéficient de la compagnie de son esprit. » Dans cette grande œuvre, nous aimons amener des âmes au Christ pour leur première alliance et nous aimons aussi ramener des âmes à leur alliance précédente. Joseph Fielding Smith a expliqué « Sauver l'âme de ceux qui se sont écartés du troupeau est aussi valable et digne d'éloge et cause autant de réjouissance dans le ciel que sauver des âmes dans les parties lointaines de la terre. » Fin de citation. Dans chaque paroisse, il y a deux personnes qui donnent le ton pour l'œuvre missionnaire. Ce sont l'évêque et le dirigeant de mission de paroisse. L'évêque détient les clés pour diriger l'œuvre. Le manuel 2 déclare « L'évêque et ses conseillers font de l'œuvre missionnaire par les membres une priorité. Ils enseignent régulièrement les principes de l'œuvre missionnaire. Ils incitent les membres de la paroisse à œuvrer avec les missionnaires à plein temps pour trouver, instruire et baptiser des amis de l'Église. Ils donnent l'exemple en trouvant des personnes et des familles qui pourront recevoir l'enseignement des missionnaires et en les y préparant. Sous l'appel inspiré de l'évêque, le dirigeant de mission de paroisse dirige l'œuvre missionnaire en coordonnant, en dirigeant des réunions, en prenant des dispositions, en organisant, en aidant, en participant, en assistant à des réunions et en faisant d'autres choses pour diriger l'œuvre missionnaire dans la paroisse. Il tient des réunions régulières de coordination missionnaire avec les missionnaires à plein temps et s'assure qu'ils sont invités aux réunions du conseil de paroisse quand c'est opportun et qu'ils y participent. Le dirigeant de mission de paroisse est l'associé actif des missionnaires et les aide en trouvant des occasions d'enseigner, en les conseillant et en coordonnant toutes les ressources de la paroisse. Cela peut consister à trouver des membres qui sont prêts à faire équipe avec les missionnaires, à accueillir des personnes chez eux pour des leçons, à apporter leur aide pour le transport et à participer quand les missionnaires instruisent des membres du sexe opposé. Le dirigeant de mission de paroisse a un rôle élevé. Vous, dirigeant de mission de paroisse, notez bien. Nous vous demandons de vous élever à la hauteur de cette nouvelle responsabilité. Faites connaissance des missionnaires. Soyez leurs meilleurs amis, travaillez avec eux, aidez-les à remplir leur agenda de rendez-vous de qualité pour qu'ils n'aient pas le temps de frapper aux portes à la recherche de personnes à instruire. Sous la direction de l'évêque, les dirigeants de missions de paroisse et les missionnaires à plein temps concentrent leurs efforts sur les nouveaux membres, les membres non pratiquants et les membres qui reviennent à l'Église, ainsi que sur leurs familles. Ils se concentrent sur les amis, les familles partiellement membres, ainsi que les membres de la famille et les amis de ces dernières, les voisins et les amis intéressés des membres de la paroisse et d'autres personnes qui écouteront sincèrement. Les manuels d'instruction nous disent quoi faire, mais pas comment le faire. Il n'y a pas de texte prédéfini ni d'étape précise à suivre pour apporter la joie de l'Évangile à des gens. Notre parabole nous apprend qu'il n'y a pas de livre pour dire à un père ou une mère ce qu'il faut faire quand il manque un enfant. Quel parent attendrait qu'un manuel d'instruction soit écrit pour aller voir où est l'enfant ? Les bons dirigeants, comme les bons parents, agissent par amour. S'ils agissent par amour, le Seigneur les guidera et les aidera à comprendre que chaque personne demande des soins uniques ayant pour but de les aider à obtenir la joie d'une vie conforme à la manière du Seigneur. Le dirigeant de mission de paroisse fait le lien entre les missionnaires, le conseil de paroisse et les membres de la paroisse. Comment peut-il faire cela? Comment peut-il insuffler son enthousiasme pour l'œuvre missionnaire à chaque membre du conseil de paroisse? Nous allons passer un enregistrement vidéo qui montre comment le dirigeant de mission de paroisse de la 3e paroisse d'Edmonds, dans le pieu de Stillwater en Oklahoma, l'a fait. Il a réussi à changer la culture missionnaire de sa paroisse.
Nous subissons la pire sécheresse de ces 50 dernières années. La situation est très critique. Le niveau de la plupart des bassins était au plus bas, et donc pour l'agriculture, les animaux, la situation était grave. Et dans notre paroisse, nous n'avions pas eu de baptême depuis 3 ans. En tant que président, ce qui se passait nous inquiétait. Et nous en avons parlé. Nous avons envoyé une lettre demandant aux membres de jeûner ensemble en faveur de l'œuvre missionnaire et aussi pour la sécheresse. Nous avons reçu cette lettre et tout le pieu ainsi que d'autres pieux aux alentours ont jeûné et l'œuvre missionnaire a immédiatement commencé à reprendre. Les écluses se sont ouvertes et tout le monde s'est investi. Frère Bowen des 70 est venu dans l'interrégion et a donné une formation missionnaire. L'une de ses premières réflexions a été « Les missionnaires à plein temps de votre paroisse ou branche sont seulement là pour vous aider dans l'œuvre missionnaire. » C'est notre travail de membre de l'Église de s'investir activement et d'inviter nos amis et notre famille à l'Église. Ça ne peut pas marcher sans la participation des missionnaires à plein temps et celle des membres. Notre but est de faire en sorte que les dirigeants de mission de paroisse et le conseil de paroisse soient aux commandes et non les missionnaires à plein temps. Le rôle du dirigeant de mission de paroisse est de définir un plan de mission de paroisse après avoir consulté l'évêque et le conseil de paroisse pour ensuite essayer de mettre en œuvre ce plan qui consiste à aider les membres à trouver et intégrer des gens à qui les missionnaires à plein temps enseigneront l'Évangile. La seule chose que j'essaie de faire avec mon dirigeant de mission de paroisse adjoint et les missionnaires, c'est de faire en sorte que l'agenda de ces derniers soit rempli. Depuis que cet effort missionnaire global a démarré l'année dernière, nous sommes passés d'une moyenne de 2, 3, 4 leçons avec un membre présent par semaine à une petite douzaine. Il y a quelques mois, nous avions en moyenne 14 à 16 enseignements conjoints. Notre objectif aujourd'hui est de 20 par semaine. Quand j'observe la transformation qui s'est produite dans notre paroisse et notre pieu, je distingue aisément deux raisons principales qui ont fait que l'effort missionnaire a explosé. C'est l'investissement des membres, puis les invitations à aller à l'église ou à rencontrer les missionnaires. Alors, j'aide ma famille et toutes les autres familles de notre paroisse à trouver des occasions de parler de l'Évangile avec d'autres personnes.
Je m'appelle Trish Gauvin et voici Marc Gauvin.
Nous nous sommes fait baptiser le 26 janvier 2013. C'était le scénario parfait de l'œuvre missionnaire par les membres. Une famille s'est liée d'amitié avec eux et elle les a présentés à une autre famille. Et leurs enfants ont rencontré d'autres enfants de notre paroisse, ils sont devenus.
Je crois que le Seigneur a mis de nombreux membres de l'Église sur notre chemin pour une raison.
Ça a conduit à des discussions plus sérieuses avec les missionnaires et ils ont commencé à venir à l'Église plus régulièrement.
J'ai vu leur lumière et comment l'Évangile influence leur vie.
Il est important que nos membres connaissent nos missionnaires et inversement. Mais ce qui est plus important encore, et même essentiel, c'est que nos membres apprennent et fassent comment faire connaissance de nos amis de l'Église. Cela met à l'aise quand on étudie de rencontrer des gens comme ça, parce qu'on n'hésite pas à poser des questions. On n'hésite pas à explorer et à apprendre des choses qu'on ne connaît pas. On ne se sent pas jugé.
Personnellement, j'éprouvais la même chose que Joseph Smith en allant d'église en église. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il manquait quelque chose d'important. Ça me va. Ça va à ma famille. Ça va à ma vie.
Cette sécheresse ou période de stagnation de l'œuvre missionnaire dans cette interrégion est bien finie. Et l'œuvre prend de la vitesse jour après jour. Et à mon avis, elle n'est pas près de ralentir. C'est la grande œuvre des derniers jours. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour rassembler Israël. Et c'est notre responsabilité, la mienne et celle de tous les membres de l'Église, de parler de l'Évangile à un maximum de gens.
Nous sommes reconnaissants pour frère président Bowman et ses dirigeants de mission de paroisse de nous avoir montré comment les membres et les missionnaires travaillent ensemble. Avec un objectif et une vision commun, ils connaissaient les besoins spirituels et temporels des personnes qu'ils aiment. Oui, les véritables récompenses et le vrai travail des membres du conseil de paroisse ont lieu en dehors de leur réunion, en la présence des personnes qu'ils instruisent. Dans notre parabole, vous supposez peut-être que le père représente un évêque et un dirigeant de mission de paroisse. En fait, le père peut représenter n'importe quel membre de l'Église. Avec amour, chacun peut faire ce que ferait le bon berger pour planifier et porter secours. Et chacun peut le faire dans la prière avec l'inspiration de notre père à tous. En suivant l'inspiration divine, chaque dirigeant d'auxiliaire de paroisse n'a pas à attendre que l'évêque ou le dirigeant de mission de paroisse lui confie des tâches. Chacun aura cette impression. Notre troupeau semblait au complet jusqu'à ce que nous commencions à mettre les couverts pour chaque personne qui devrait être à la table, et pas seulement pour celles qui viennent. Chaque membre voudra chercher les personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église ou celles qui ont besoin d'aide pour retrouver la joie de l'Évangile. Ils agiront selon l'inspiration, motivés par l'amour. Quand nous suivons Jésus-Christ, nous agissons comme il agirait et nous aimons comme il aimerait. Son œuvre s'accomplit une âme à la fois. Nos efforts sont le fruit de notre amour pour notre prochain et pour notre Père céleste dont nous sommes les enfants. Oui, Dieu est notre Père, Jésus est le Christ, cette Église est la sienne. Nous sommes ses serviteurs, j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Quand on m'a confié la tâche de m'adresser à l'Église au sujet de l'enseignement, je me suis senti tout petit et j'ai prié sincèrement à ce sujet. Il y a presque 70 ans, je me suis assis sur une falaise d'une île minuscule
de l'Océanie au large d'Okinawa. La guerre venait de s'achever et j'avais survécu. Je me demandais ce que j'allais faire. Nous attendions que les navires viennent pour nous ramener chez nous. Et je méditais sur ce que je ferais de ma vie. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais être? J'ai finalement décidé que je voulais être enseignant. Et donc, me voilà, presque 70 ans plus tard, toujours avec le même désir, la même détermination, ayant beaucoup appris, bien qu'ayant encore tant à apprendre. Après toute analyse, tout se résume à l'enseignement. Nous apprenons à enseigner. Il y a des principes que nous pouvons apprendre à analyser. Et parmi eux, peut-être même le plus difficile à apprendre, est celui de vivre de façon à pouvoir s'abandonner et sans lire de scénario. J'aimerais pouvoir vous promettre que si vous étudiez sérieusement et sincèrement, vous serez meilleur. Ça ne vous fera pas de mal, mais ça ne vous rendra pas meilleur, ni même aussi bien que si vous faites confiance au Seigneur et à l'Esprit que vous allez de l'avant. Ça ne devient pas vraiment une seconde nature, mais en temps voulu, vous apprendrez à faire confiance dans l'Esprit. Je me suis tenu de nombreuses fois à la chaire, me demandant quoi dire, ou au pupitre, me demandant quoi dire, la tête un peu vide, et sachant que j'avais une grande responsabilité. Mais les mots sont toujours venus. Ils viennent quand on commence. Et on se met à parler, puis la révélation commence à se déverser. Notre mérite, à ce moment-là, est minime, puisque c'est l'Esprit qui est le pouvoir générateur. Et c'est pareil pour tout le monde dans l'Église. J'ai appris que dans l'Église, nous sommes tous des enseignants. Si donc vous êtes appelé à enseigner, que ce soit à la société de secours ou à la prêtrise ou dans les auxiliaires, prenez cet appel très au sérieux et sachez que vous prenez un petit avantage quand vous priez parce que tout le pouvoir du rétablissement repose sur les enseignements qui sont donnés. Les plus grands enseignements dans l'Église sont faits par les mères. Donc, ceux d'entre vous qui enseignez dans l'Église, que vous fassiez professionnellement ou autre, sachez que cet enseignement est sacré et que le principal se fait en fait en dehors de la classe, même en dehors de votre préparation, quand vous lisez les leçons, étudiez ou méditez. Rappelez-vous de cette expression dans les Écritures, « La voix du Seigneur parvint à mon esprit ». Ça marche à tous les coups. Si vous avancez, si vous êtes obéissant, parfois, nous pensons à l'obéissance de manière négative. Les enfants ont des difficultés. Des fois, ils ont besoin de l'aide de leur mère pour apprendre l'obéissance. Et nous avons parfois nos petits combats intérieurs et nous devons freiner. Il y a le mot « repentir », bien sûr. Que signifie le mot « repentir » ? Ça signifie qu'on ne recommence pas, qu'on ne répète pas l'erreur. Donc vous devez alors revenir au point où vous étiez avant de vous écarter du chemin et repartir, libérer des difficultés qui vous encombraient à ce moment-là. L'expiation est le plus grand guérisseur. Elle rachète les péchés. Vous rendez-vous compte à quel point c'est merveilleux de pouvoir bénéficier de l'expiation? Le Seigneur a accompli l'expiation uniquement dans notre intérêt. Il n'y a rien dont vous ne pouvez vous repentir et dont vous ne pouvez être secouru si vous vous repentez et êtes déterminé à prendre cette décision. Donc, mon conseil est simple. décider de faire les choses bien, décider d'être meilleur, décider de faire confiance aux Écritures. Et ainsi, vous progressez et vos difficultés seront alors pour votre bien. Les 70 dernières années passées m'ont beaucoup appris, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne sais pas combien de temps encore je vais apprendre, mais quand cette vie sera terminée, que j'irai dans le nouveau royaume, je commencerai une nouvelle école. Je vous témoigne que le Seigneur vit, que le rétablissement est une réalité, qu'il a été géré et conçu au-delà du voile pour notre profit. Le Seigneur vit, je sais que le Seigneur vit, et je connais le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Elder Nelson, for your instruction.
Merci, Frère Nelson, pour votre enseignement et Président Packer également pour votre instruction sur l'instruction. Comme nous l'avons enseigné aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, nous, membres individuels de l'Église et membres des conseils de l'Église. Il nous appelle à faire beaucoup plus pour réaliser ses desseins et promouvoir son œuvre. Nous allons maintenant avoir l'honneur et la bénédiction d'entendre notre prophète, Thomas S. Monson, qui justement le croit. Il ajoutera son témoignage et nous enseignera l'importance de la foi dans l'œuvre missionnaire par les membres. Et nous sommes reconnaissants d'avoir président Monson à cette époque. Malgré le récent décès de sa femme bien-aimée, Francis, le président Monson a tenu à ajouter sa voix et son témoignage à ce qui a été dit ce soir ici. Comme nous sommes reconnaissants d'avoir un prophète qui nous guide à notre époque, je vous exhorte à écouter attentivement les conseils du président Monson et à ressentir l'esprit de son message et à adhérer au témoignage qu'il rend de cette œuvre. Après les remarques du président Monson, le chœur et l'assemblée chanteront ensemble le cantique missionnaire bien connu « Appelé à servir », après quoi la prière de clôture sera offerte par Sœur Ortega, qui est la présidente de Société de Secours dans la paroisse, une paroisse du Pieux de Bonneville.
Avant de commencer mon discours, je saisis cette occasion pour vous remercier de votre gentillesse dans ces moments difficiles du fait de la perte de ma femme bien-aimée Francis. J'ai été fortifié et soutenu par votre amour et vos prières pour moi. Pour Sœur Monson et moi-même, l'œuvre missionnaire a toujours eu une place importante dans notre cœur et notre vie commune. Nous étions encore de jeunes mariés lorsque j'ai été appelé à œuvrer comme évêque de l'ancienne 6e-7e paroisse de Salt Lake City, qui comptait 1080 membres. Il y avait un certain nombre de membres de la paroisse qui n'étaient pas pratiquants, et Sœur Monson était toujours prête à me soutenir et à m'encourager lorsque mes conseillers et moi rendions visite à ses chers membres et travaillons à les ramener dans l'Église. Quelques années plus tard, j'ai été appelé à œuvrer comme président de la mission canadienne. Moins d'un mois après avoir reçu l'appel, Sœur Monson et moi avons quitté notre nouvelle maison et, avec nos deux petits-enfants et un à venir, avons fait le voyage jusqu'à Toronto, en Ontario, au Canada, où l'œuvre missionnaire a rempli notre vie pendant les 3 années suivantes. J'approuve tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Je vous témoigne que vous serez bénis si vous suivez les recommandations que vous avez reçues. Les Saintes Écritures ne contiennent pas de proclamations plus pertinentes, de responsabilités plus obligatoires, d'instructions plus directes que l'injonction que le Seigneur ressuscité a donnée quand il est apparu aux 11 disciples en Galilée. Il a dit, citation, je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Fin de citation. Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Après tout ce qui a été dit, le devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. » Fin de citation. Certains d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui se souviendront aussi des paroles de David O. MacKay qui a exprimé cette devise bien connue : « Chaque membre est un missionnaire. » Gordon B. Hinckley nous a dit : Tant d'entre nous considèrent que l'œuvre missionnaire se limite au porte-à-porte. Tous ceux qui connaissent bien cette œuvre savent qu'il y a un meilleur moyen. Et ce moyen, ce sont les membres de l'Église. Fin de citation. J'ajoute mes paroles aux leurs. C'est maintenant que les membres et les missionnaires doivent s'unir et travailler ensemble pour œuvrer dans la vigne du Seigneur afin de lui amener des âmes. Il a préparé les moyens nécessaires pour nous permettre de proclamer l'Évangile de nombreuses manières et il nous aidera dans nos efforts si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. Au cours de notre service dans la mission canadienne, Sir Monson et moi avons été témoins de la foi profonde des saints canadiens qui nous a fortifiés. Cette séquence vidéo décrit la foi et les œuvres des membres et des missionnaires de notre mission qui ont vécu et œuvré à Saint Thomas. Une autre manifestation de foi s'est produite lorsque je me suis rendu pour la première fois à la branche de Saint Thomas dans notre mission, à près de 200 km de Toronto. Ma femme et moi avions été invités à assister à la réunion de Sansen de la branche et à y adresser un discours aux membres. En roulant dans une rue coquette, nous avons vu beaucoup d'églises et nous nous sommes demandé laquelle était la nôtre. Aucune ne l'était. Nous avons trouvé l'adresse qui nous avait été indiquée et nous avons découvert qu'il s'agissait d'un foyer d'hébergement vétuste. Notre branche se réunissait dans le sous-sol du bâtiment vétuste et était composée d'environ 25 membres, dont 12 étaient présents. Les mêmes personnes dirigeaient la réunion, bénissaient et distribuaient la Sainte-Cène, faisaient les prières et chantaient les cantiques. À la fin des réunions, le président de branche, Irving Wilson, m'a demandé s'il pouvait avoir un entretien avec moi. Lors de cet entretien, il m'a tendu un exemplaire de l'Improvement Era, le magazine de l'Église, qui a précédé notre Ensign actuel. En me montrant une photo de l'une de nos églises en Australie, une église neuve, il a dit « Voilà le bâtiment dont nous avons besoin ici à Saint Thomas. » J'ai souri et répondu « Quand nous aurons suffisamment de membres ici pour justifier un tel bâtiment et le financer, je suis sûr que nous l'aurons. » À cette époque, les moments locaux devaient réunir 30% du coût du terrain et du bâtiment, en plus du paiement de la dîme et des autres offrandes. Le président Wilson a rétorqué « Nos enfants deviennent des adultes, nous avons besoin de ce bâtiment et maintenant. » Je les ai encouragés à accroître leur nombre par leurs efforts personnels pour intégrer et instruire les gens. Le résultat, mes frères et sœurs, est un exemple classique de foi doublé d'efforts et couronné de témoignages. Le président Wilson a demandé que 6 missionnaires de plus soient envoyés à la ville de Saint-Thomas. Quand cela a été fait, il a invité les missionnaires à une réunion dans l'arrière-boutique de sa petite bijouterie, où ils se sont agenouillés et ont fait une humble prière. Après la prière, il a demandé à l'un des missionnaires de lui tendre l'annuaire téléphonique professionnel qui se trouvait sur une table voisine. Il a pris l'annuaire et a dit « Si nous devons avoir un jour le bâtiment de nos rêves à Saint-Thomas, nous aurons besoin d'un membre pour en dessiner les plans. Étant donné que nous n'avons pas d'architecte parmi nos membres, nous allons simplement devoir en convertir un. » Faisant glisser son doigt le long de la colonne des architectes répertoriés, il s'est arrêté sur un nom et a dit « Voilà celui que nous allons inviter chez moi pour qu'il entende le message du rétablissement. » Le président Wilson a fait de même pour les plombiers, les électriciens et tous les autres artisans. Il n'a pas négligé les autres professions, car il désirait avoir une branche équilibrée. Les gens ont été invités chez lui pour rencontrer les missionnaires. La vérité a été enseignée, des témoignages ont été rendus et il y a eu des conversions. Ces nouveaux membres ont ensuite fait de même, invitant d'autres personnes à écouter. Semaine après semaine et mois après mois, cela a continué. La branche de Saint Thomas a connu une croissance formidable. En 2 ans et demi, un terrain a été acquis. Un beau bâtiment y a été construit, un rêve inspiré est devenu réalité. Cette branche est à présent une paroisse prospère d'un pieu de Sion. Quand je pense à la ville de Saint Thomas, je ne m'arrête pas aux centaines de membres de la paroisse et aux familles qui se comptent par dizaines. Non, je songe à la maigre assistance de cette réunion de Sainte-Seine dans le sous-sol du foyer d'hébergement, 12 personnes, et à la promesse du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Beaucoup d'années ont passé depuis que cette vidéo a été enregistrée. La voix que vous avez entendue était plus jeune, mais le principe de la foi en ce qui a trait à l'œuvre missionnaire est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y a un demi-siècle dans la branche de Saint Thomas. Je témoigne que si nous agissons avec foi, le Seigneur nous montrera comment fortifier son Église dans les paroisses et les branches où nous vivons. Il sera avec nous et deviendra un partenaire actif dans nos efforts missionnaires. Le nombre de missionnaires augmentant dans les paroisses et les pieux du monde entier, je vous implore de faire preuve de foi comme l'a fait le président Wilson à Saint Thomas. Lorsque vous vous demandez en priant qui de votre famille, vos amis, vos voisins et vos connaissances vous aimeriez inviter chez vous pour qu'ils rencontrent les missionnaires, afin qu'ils entendent le message du rétablissement. Comme il l'a fait pour la ville de Saint Thomas, le Seigneur sanctifiera vos efforts et vous acquérez une capacité supérieure à la vôtre d'édifier et de bénir la vie d'autrui. Puissions-nous toujours augmenter notre foi et notre fidélité à nous acquitter de notre responsabilité sacrée de secourir les enfants de notre Père Céleste, nos frères et sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Our Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette belle journée et pour cette belle réunion. Nous te remercions pour l'occasion de cette Église d'écouter tes serviteurs. Nous te remercions, Père, pour notre Sauveur Jésus-Christ et pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous, qui nous donne de la joie et du bonheur, de la paix à notre âme. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile et pour l'œuvre miraculeuse missionnaire. Nous te remercions pour notre prophète, le président Monson. Et nous l'aimons et nous le soutenons. Nous prions que tout ce que nous avons ressenti, ce que nous avons appris pendant cette réunion ne sera pas oublié et négligé, et que, en tant que membres de l'Église, que nous serons impatients de trouver les gens qui ont besoin de cet Évangile pour que nous ayons le courage et avoir la charité, l'amour du Christ dans notre cœur pour les aider à venir au Christ. Nous disons en toute humilité cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.